J'ai la parole de Dieu, ce que Dieu a mis dans son cœur. Oui. Et j'allais oublier, donc les enfants peuvent monter donc à leurs études, à l'école du dimanche. Donc je rappelle qu'il y a une garderie pour les 0-3 ans et l'école du dimanche à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans. Voilà. Donc je vais prier tout d'abord pour Olivier. Seigneur Jésus, vraiment, nous te remettons Olivier entre tes saintes mains, que tu le bénisses, que vraiment tu veilles sur lui, que tu veilles sur sa parole, aussi que tu le soutiennes dans ce service de délivrer le message que tu as résolu dans son cœur. Seigneur, vraiment que tu le bénisses, que tu le fortifies dans ce moment et que toute parole qui sort de sa bouche vienne vraiment de toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen.
Amen.
Merci. On va surtout.
Voilà, bonjour. J'ai juste un tout petit peu fermé ici pour que vous voyez éventuellement un tout petit peu sur le vidéoprojecteur. Bonjour. Toujours un plaisir d'ouvrir la Bible ensemble. Voilà. Alors, on va continuer dans le livre des Actes, et puis on est dans Acte 8, donc vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles si vous le souhaitez, dans Acte 8, avec, voilà, décidément, il m'a à peu près tout transformé ce que j'avais préparé, mais c'est pas grave, j'espère que vous y retrouverez quand même. Si tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Voilà, ça, il est quand même là. Le livre des Actes s'ouvre avec cette espèce de table des matières. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Voilà, annoncer l'Évangile jusqu'au bout de la terre. Comment aller jusqu'au bout de la terre annoncer l'Évangile? Alors en fait, il y a deux manières de le faire. Une manière, c'est évidemment se déplacer et aller au bout de la terre. Donc ça, on le verra à partir du chapitre 13 du livre des Actes. Mais il y a aussi une autre manière d'annoncer l'Évangile jusqu'au bout de la terre, c'est d'annoncer l'Évangile aux étrangers qui sont ici. Et c'est en fait le texte qui nous préoccupe aujourd'hui, où un étranger de passage en Israël va entendre l'Évangile. J'ai marqué trois petits exemples d'aujourd'hui sur ce que ça peut être concrètement. Je ne sais pas si vous le savez, que l'endroit au monde où, semble-t-il, il y a le plus de gens d'Arabie Saoudite qui se convertissent, c'est la ville de Genève. Parce que depuis plusieurs années, des associations d'évangélisation, suisses et libanaises, se sont mis ensemble pour annoncer l'Évangile aux Saoudiens qui viennent nombreux en vacances à Genève. On ne peut pas leur annoncer l'Évangile en Arabie Saoudite. C'est un peu dangereux, on va dire comme ça. Voilà. Donc c'est à Genève qu'ils entendent l'Évangile. Et ils repartent avec la connaissance de Jésus-Christ. Ou pour le dire autrement, dans certaines églises d'Allemagne, notamment dans la région du Rhin, il y a un réveil auprès des Afghans. Beaucoup de réfugiés afghans sont arrivés dans cette région et plusieurs églises ont commencé à annoncer l'Évangile à ces Afghans. Et il y a véritablement un réveil avec de nombreuses églises et cultes dans des langues un peu étranges pour nous peut-être. Et puis vous vous rappelez sans doute, dimanche passé, quand Hélène nous a exhortés à aimer les étrangers autour de nous. Alors elle disait en partie à cause de l'impact que ça a là-bas, quand ils parlent auprès de leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins. Comment sont les chrétiens? Alors le texte d'aujourd'hui, c'est le récit de la conversion d'un Africain. Alors ce n'est pas tout à fait le premier Africain, parce que on sait qu'à Pentecôte, il y a des Libyens qui se sont convertis, mais c'est la première fois qu'un Africain non-juif se convertit. On dirait que c'est le premier noir qui se convertit. En passant, vous noterez qu'il faut attendre le chapitre 10 pour que le premier blanc se convertisse. Juste, bon. À noter qu'à l'époque, il y avait pas mal de préjugés envers les Noirs. Les gens qu'on appelait à l'époque les Kouchites sont vus comme une grande civilisation admirée dont on craint les mercenaires. Il y a toujours des préjugés, hein, mais pas toujours les mêmes d'une période à l'autre, hein. L'homme qui va se convertir est un ministre d'Éthiopie, et ça c'est pour la petite note avant d'enfin entrer dans le texte, les églises d'Éthiopie d'aujourd'hui rattachent leur fondation à l'action de cet homme qui est rentré dans son pays et qui a annoncé l'évangile autour de lui. Alors les historiens n'en sont pas très sûrs parce qu'on n'a aucun écrit sur cette histoire-là. On sait qu'il y a des églises à peu près autour du 4e siècle en Éthiopie, mais aussi dans les pays qui dépendaient dans l'immense empire Kouchite, notamment le Mali. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait des églises au Mali autour du 4e siècle. C'était les toutes premières églises dans la vallée de la Loire à l'époque, hein. Parfois, il faut se rappeler que nous ne sommes pas forcément tombés de la première pluie, mais la première pluie, on est plutôt arrivé nous en dernier. Une question intéressante quand même pour l'Éthiopie et pour le Mali, c'est pourquoi la plupart de ces églises ont en fait disparu. Et aujourd'hui, c'est un peu étonnant de se dire qu'il y avait des églises au Mali au 4e siècle. Et pourquoi les églises d'Éthiopie ont, pour une grande partie d'entre elles, très largement dévié du message de la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors mon professeur d'histoire, Jacques Blondonnier, qui est venu nous dire bonjour il n'y a pas si longtemps, hein, disait que sans doute la raison principale, c'est qu'ils n'avaient pas la Bible dans leur langue. Tant qu'ils avaient des bons pasteurs, ça allait bien. Tant que ce n'était plus le cas, ils ont suivi un pasteur qui passait, ou un imam, ou peut-être leur propre pensée. Ouais. Moi, je trouve que c'est une question quand même importante. Est-ce que je connais suffisamment la Bible pour rester ferme dans la foi et pour que mes enfants grandissent dans la foi, même s'il n'y a pas forcément une église autour? Fin de la parenthèse pour ces églises d'Éthiopie. Je crois que tu peux mettre peut-être la diapo suivante. Ouf, non, tu passes plus loin parce qu'aujourd'hui, il ne veut pas faire ce qu'on voulait. C'était juste pour mettre une carte de où se trouvait l'empire d'Éthiopie de l'époque, hein, qui couvre aujourd'hui le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, enfin tous ces pays-là, un peu depuis l'Égypte jusqu'au lac Victoria, et puis qui avait des influences jusqu'au Sénégal de l'autre côté. Voilà, je vous invite enfin à prendre vos Bibles pour nous occuper de ce personnage important dont on nous raconte ici la conversion puis le baptême. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud et prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Codas, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, « Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tendent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance ?» car sa vie sur la terre a été supprimée. » C'est un passage d'Ésaïe 53, les versets 7 à 8. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors, le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?»« Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char, Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, dans la bande de Gaza, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Voilà un passage, je trouve assez particulier quand même, mais aussi très stimulant. Excusez-moi, j'ai juste un petit peu de place pour pouvoir m'étaler. Je trouve la première leçon sans doute de ce passage, que je trouve moi très stimulant, c'est qu'il y a des gens qui cherchent Dieu. Ouais, des fois on en doute un peu, hein. Non, il y a des gens qui cherchent Dieu. Parfois, nous sommes comme Philippe, et Dieu place sur notre chemin des gens qui cherchent Dieu. Avec peut-être la première question qui est-ce que je prie pour ça, pour les rencontrer? Et puis, est-ce que comme Philippe, j'ai la liberté de proposer à mes amis de parler de Dieu? Ou est-ce que je pense tellement qu'ils ne s'intéressent pas que je leur dis rien? Je m'en rappelle une rencontre un peu étonnante de quelqu'un que j'ai plus revu après. J'étais en train d'attendre, vous savez ce que c'est, je ne sais même plus pourquoi j'attendais d'ailleurs. J'attendais mon tour, vous voyez, dans la file d'attente. Et puis j'étais en train de lire un bouquin et quelqu'un s'est assis à côté de moi et m'a demandé « qu'est-ce que vous lisez ?» Et je lui ai expliqué ce que je lisais et on a parlé une heure de Jésus-Christ. Je ne me rappelle même plus quel livre je lisais à ce moment-là, mais je me suis dit « heureusement que je n'avais pas pris un roman aujourd'hui hein. ». Oui, il y a des gens qui cherchent Dieu. Et parfois, le Seigneur nous appelle à être à leur côté pour répondre à leurs questions. D'ailleurs, vous avez peut-être vécu déjà l'inverse. Vous étiez plutôt dans le rôle de l'Éthiopien. Vous aviez des questions et Dieu a mis, comme ça, de manière un peu bizarre, quelqu'un à vos côtés pour répondre à vos questions. Tout ce texte parle d'un rendez-vous préparé par Dieu. La présence de Philippe, le fait qu'il arrive juste au moment où l'eunuque parle, lit un texte d'Ésaïe qui annonce la venue de Jésus, un rendez-vous soigneusement préparé par le Seigneur. Oui, le Seigneur nous prépare des rendez-vous. Quelques remarques qui me semblent utiles sur ce passage. La première chose qui est peut-être un peu étonnante, c'est que, en fait, le Saint-Esprit demande à Philippe d'abandonner un ministère très florissant en Samarie pour aller se balader sur une route qu'on appelle alors, la route déserte. Il y avait deux grandes routes qui partaient de Gaza vers l'Égypte. Une était plus fréquentée que l'autre. Voilà. N'empêche, je trouve ça intéressant. Parfois, on pense que réussir, ça suffit pour être un signe que c'est là que Dieu me veut. Et peut-être pas. Parfois, le Seigneur nous demande d'être disponible pour une personne au détriment de nos habitudes, même des très bonnes habitudes et très chrétiennes. Oui, c'est étonnant. L'Esprit-Saint va pousser Philippe à s'approcher du char de ce personnage important et à écouter. Philippe va entendre l'homme lire la Bible à haute voix. À l'époque, on lisait plutôt à haute voix. Certains comprennent qu'il demande à un de ses esclaves de lire, plutôt habituel dans cette culture. Mais bon. En tout cas, Philippe saisit cette occasion au vol, il entend quelqu'un lire la Bible et il lui pose des questions. On sait que cet homme est un ministre de Codas. Codas, c'est le titre des reines. À l'époque, c'était la reine Méroé. Il vient d'Éthiopie et sa charge, c'est en gros ministre des Finances. Voilà. Sa manière de parler, alors on le voit un peu dans la traduction française, on le voit surtout en grec. On voit qu'il a un langage très soigné, qui tranche avec Philippe qu'un langage beaucoup plus normal, quoi. Hein. Et on voit que Philippe a un certain culot, quand même. Il va apostropher ce personnage important, qui est sans doute entouré de toute une kyrielle de gardes du corps. Je ne sais pas si le président de la Banque européenne passe à Chartres, si j'irais taper à sa fenêtre en disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, monsieur ?» Ouais. Mais peut-être il faudrait le faire, parce que Dieu appelle des gens, et il y a des gens qui cherchent Dieu. C'est parfois, dans notre culture, un peu plus simple de le faire quand on est dans une salle d'attente ou dans un train, vous voyez. Bon. À l'époque, il est normal qu'un voyageur isolé rejoigne un convoi, c'est pour une question de sécurité. Par contre, le fait qu'il adresse la parole à quelqu'un qui est aussi important, ça, c'est totalement inhabituel. Ouais, moi, c'est un texte qui me remet chaque fois en cause parce que j'avoue que j'aime pas du tout déranger les gens. Ça me met vraiment mal à l'aise quand je dois déranger quelqu'un. Vous voyez ? Et ça m'a quand même posé la question. Est-ce que je sais saisir les opportunités que Dieu propose ? On sait qu'il y avait des communautés juives dans cet empire couchite à l'époque. Manifestement, cet homme a côtoyé des juifs, qu'il s'est procuré des extraits de Bible, qui est un grand luxe à l'époque. Nous, on a une chance, on achète des Bibles pour trois fois rien. À l'époque, c'était un grand luxe. Il va même entreprendre ce voyage très long jusqu'à Jérusalem, dans le but d'entendre parler de Dieu. Quelqu'un qui cherche vraiment Dieu. Et c'est étonnant de l'entendre quelque part. Il cherche vraiment Dieu de tout son cœur, et il n'a personne à qui poser ses questions. Oh, tiens, j'avais marqué un autre exemple. On rencontre parfois des gens comme ça. Je me rappelle un matin où j'avais spécifiquement prié pour que Dieu me fasse rencontrer des gens qui cherchent Dieu. Et je sors du métro pour aller à l'université et je croise un ancien copain de lycée. Et je dis, tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, j'arrive pour faire une thèse. Puis on commence à causer un peu, je lui explique que je travaille avec des groupes chrétiens. Il dit, ah, ça tombe bien, j'ai plein de questions pour Dieu, quand est-ce qu'on peut se voir ? J'ai pas su quoi répondre, quoi. On a pris rendez-vous et on a cheminé ensemble, il s'est converti. Bon, bref, voilà. Oui, parfois, c'est ainsi. Mais je trouve touchant de voir cet homme qui cherche profondément Dieu, qui fait d'énormes efforts pour essayer de comprendre Dieu, puis il n'a personne pour répondre à ses questions. Maintenant, le texte complique un petit peu quand même, parce qu'on nous donne une précision. Alors, j'ai vu que dans ma traduction, elle est un peu enlevée. On nous précise... Est-ce que tu peux passer un peu plus loin, s'il te plaît ? Une ou deux, encore une. Voilà. Décidément, vous avez... J'avais exprès écrit noir sur blanc, mais voyez, le fond noir a un peu changé de couleur. Bon. Une précision qui nous est donnée ici, c'est que c'est un eunuque. C'est assez habituel pour les serviteurs des reines de l'époque, mais il y a quand même un grand problème. Parce que Deutéronome 23 dit de manière très explicite que les eunuques ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, ne peuvent pas entrer dans le peuple de Dieu. Oui. Cet homme a beaucoup de difficultés, quelque part, d'être un croyant juif, d'abord parce qu'il n'est pas juif, en plus, sans doute parce que c'est un étranger qui vient de très loin, sans doute aussi parce qu'il est riche, vous savez les préjugés que ça fait quand, entre les riches et les moins riches, ouais, hein. Et en plus parce qu'il est eunuque. Alors je vous propose de lire ce verset, cherchez-le pas dans la Bible, je vais essayer de le lire assez fort, dans Deutéronome 23, voici ce que dit assez clairement la loi de Dieu. Aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne sera admis dans l'assemblée de l'Éternel. L'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la 10e génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération. Voilà. Vous voyez ce texte, très clair. Et pourtant, dans la Bible, on a des surprises. On a par exemple Ruth, qui est Moabite, qui entre dans le peuple de Dieu. On a le roi Salomon, issu d'une union illicite, qui entre dans le peuple de Dieu et qui devient même un roi. Et ici, on a cet eunuque qui entre dans le peuple de Dieu. C'est un peu étrange, non ? Dieu fait des exceptions à ses propres règles. Non ? Oui ? Alors, on verra dans un autre texte qu'il précise sous quelles conditions on peut faire des exceptions. Hein. Mais voyez ici, ce texte qui me paraît important et qui nous rappelle qu'il faut pas forcer, qu'il faut parfois faire un peu attention quand on brandit des versets bibliques ou des interdictions bibliques. Voyez, il y a une expression qui dit « certains utilisent la Bible comme un marteau ». Il y a la grâce dans la Bible. Alors, avant d'étudier le texte d'Ésaïe que Philippe et l'Éthiopien ont lu ensemble, on va lire un autre passage aussi dans le prophète Ésaïe, au chapitre 56. c'est juste un tout petit peu plus loin que le passage qu'ils sont en train de lire. J'aime à penser que cet eunuque avait lu ce passage, qui est quand même assez étonnant. Alors, je ne sais plus. Voilà, si tu peux mettre aussi la suite, s'il te plaît. Voilà, j'ai mis, on est parfois aveuglé par nos préjugés et notre légalisme. Et si tu peux mettre la suite, vous avez... Ah oui, toi, c'est déjà la référence de la suite. Bon, tu peux revenir en arrière, désolé. Je pensais que vous avez remis une diapo entre deux. Alors, voici ce que dit Ésaïe 56 à partir du verset 3. L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas se dire « L'Éternel m'exclura sûrement de son peuple ». L'eunuque non plus n'aura pas à penser « Je suis un arbre sec ». Car voici ce que l'Éternel déclare. À ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Rappelez peut-être que cette dernière phrase a été citée par Jésus dans le temple. Une maison de prière pour tous les peuples. Voyez ici ce passage qui parle de manière assez explicite des eunuques et des étrangers qui peuvent être acceptés dans le peuple de Dieu. En passant, vous remarquez qu'il y a ici une mention particulière pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants se posent une question importante. Quelle trace va rester de moi ? Et on voit ici la réponse du Seigneur, « Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. » Pour ceux qui n'ont pas d'enfants aussi, le Seigneur s'en souvient et fait qu'on se souvient d'eux. Moi, je trouve que c'est important hein, comme promesse. Ici, on donne une précision importante. Ceux qui font partie du peuple de Dieu, dans ce chapitre d'Ésaïe, c'est ceux qui s'attachent au Seigneur pour le servir et l'aimer. Et qui s'attache à l'alliance du Seigneur. Vous avez vu, c'est ce qu'il dit, hein, à la fois pour l'eunuque et pour l'étranger. Le critère n'est pas d'être un descendant de croyant, mais de s'attacher à Dieu. C'est bien le cas ici de l'eunuque, hein, ou le cas de Ruth. Ruth, la Moabite, avec 8200 ans avant, hein, c'est quand même un bout de temps. Vous voyez ici, je disais tout à l'heure, sommes-nous aveuglés par nos préjugés et parfois par notre légalisme ? Voilà un texte qui nous rappelle à revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce qu'on s'attache au Seigneur ? Et tout au long du livre des Actes, on revient là-dessus. On y est déjà revenu plusieurs fois. Hein. Ou certains vont dire non, les Galiléens, ça ne peut pas être des vrais croyants. Les Samaritains, ça ne peut pas être des vrais croyants, etc. Et si on a toute la suite ? Mais oui, il y a parmi tous ces peuples, y compris dans le chapitre suivant, un persécuteur des croyants, ou un soldat romain, ou un turc, des gens qui se convertissent et qui s'attachent au Seigneur, et le Seigneur les accueille. On va maintenant lire ensemble le passage, où je vous propose de lire ensemble, le passage que cet eunuque était en train de lire. Et comme... Oui, là, si tu veux passer au texte suivant... Ouais. Et je vous invite à relire les quelques versets qu'ils ont lus ensemble. Il a été maltraité et il s'est humilié. Pardon, c'est Ésaïe 53, les versets 7 à 8. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Voilà, c'est un extrait d'un passage qu'on appelle parfois le quatrième chant du serviteur. Il y a dans le livre d'Ésaïe quatre grands poèmes qu'on appelle parfois les chants des serviteurs. Et ces quatre grands poèmes annoncent, ben nous on le sait, pour nous c'est relativement simple, annoncent la venue de Jésus avec beaucoup de précision. Alors après, il faut préciser, nous on connaît Jésus, ça nous paraît évident. D'ailleurs, c'est des passages qui sont tellement clairs que c'est une annonce de Jésus que beaucoup de gens doutent que ces passages ont bel et bien été écrits par Ésaïe. Ésaïe a été écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un peu grâce aux écrits de Qumran, vous avez sans doute entendu parler des écrits de Qumran, où on a trouvé un texte d'Ésaïe qui dépendait bel et bien, qui datait bel et bien d'avant la naissance de Jésus, que certains ont bien dû admettre que oui, quand même, c'est quand même étonnant que ce qu'Ésaïe dit, ça ressemble beaucoup à la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Stan Telchin, c'est un pasteur américain qui est juif et qui s'est converti. Et il raconte qu'il a lu ce passage à sa maman. Et puis il a demandé de qui ce passage parle-t-il. Et sa maman dit, oh, ça parle encore de ton Jésus. Puis il lui a dit, mais tu sais, c'est dans le prophète Ésaïe. Et sa maman ne voulait pas le croire, quoi. Elle a dit, non, Ésaïe n'a pas pu dire ça, c'est encore un truc sur ton Jésus. Bon. Ce quatrième chant du serviteur dit beaucoup de choses avec force sur la mission de Jésus, qui va prendre sur lui notre condamnation. Je vous lis quelques versets. Verset 53, les versets 4 à 6, juste avant ce que j'ai lu avant. « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Et un peu plus loin, au verset 12, « Car après avoir tant souffert, il verra la lumière. Il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, y compris des gens à Chartres. Et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. » Oui, nous connaissons l'histoire de Jésus. Tous les textes qui racontent la mort de Jésus en croix, on se dit oui, bien sûr, ça parle de Jésus. Après, vous voyez que pour cet eunuque, la seule chose qu'il a compris, c'est qu'il doit absolument savoir qui est ce serviteur. Ouais. D'où un peu sa question, hein. Qui est ce serviteur? Et d'ailleurs, à l'époque, et encore aujourd'hui dans le judaïsme, on se pose beaucoup de questions. Qui peut bien être ce serviteur? Et en fait, il y a trois options qui sont proposées. La première, c'est que c'est le peuple d'Israël. Parce que, en Ésaïe 44, le serviteur de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël. D'autres pensent que c'est le prophète Ésaïe. Vous voyez que c'est ce que pense cet eunuque. Hein? Est-ce qu'il parle de lui-même? Beaucoup de rabbins avaient cette compréhension-là. Mais tant ça ne marche pas tellement. Si Ésaïe a souffert dans son ministère, ça ne correspond pas du tout aux souffrances qui sont décrites ici pour le serviteur. Et puis, finalement, d'autres vont dire c'est une annonce du Messie, ou du Christ, c'est le même mot. Hein? Mais pour les rabbins de l'époque, c'était extrêmement compliqué d'imaginer que le serviteur de l'Éternel puisse souffrir et être humilié. C'est pour ça qu'ils refusaient cette option-là. Pour nous, on connaît Jésus, bon, c'est relativement simple. Et voyez, c'est bien ce que Philippe va faire. Il va parler de Jésus. Il va raconter qui est Jésus. Et puis cet eunuque va tout à fait comprendre que c'est bien de Jésus qu'on parle. qu'Ésaïe a annoncé 800 ans avant. Et d'ailleurs, alors je crois que j'ai mis ça sur l'image suivante. Oui, si tu peux passer. Oui, voilà. Vous connaissez peut-être cela. Ah bah tiens, tu arrives à nous mettre plus clair. Tiens. Philippe va raconter l'histoire de Jésus et tout va s'éclairer pour cet homme. Et sa confession de foi va bien montrer qu'il a compris. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui meurt pour nous et qui nous ouvre l'accès à Dieu. Même pour des gens qui ne sont pas forcément très conformes. Vous voyez ce qu'il confesse. Il confesse Jésus, un homme. Il confesse que ce Jésus, c'est le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le roi prêtre qui doit diriger son peuple. Et il confesse encore que ce Jésus-Christ-là, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un prophète, mais c'est bien plus que cela. Je vous ai mis ce petit dessin-là, que vous connaissez sans doute. Le signe des premiers chrétiens, c'est le poisson, et non pas la croix qui est venue bien plus tard. Poisson à cause du jeu de mots. Alors souvent, on le dessine avec le dessin qui est derrière, hein, cette espèce de poisson. Et les chrétiens dessinaient une moitié, et s'il y avait un autre chrétien qui passait par là, il dessinait l'autre moitié. C'était une manière de se reconnaître quand il y avait des persécutions. Le mot grec « ictus » veut simplement dire « poisson ». Vous voyez, il écrit en bas, hein. Ictus, ça veut dire poisson, avec ce qu'on appelle un acronyme. C'est l'acronyme de Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Tiens, il a aussi enlevé une partie de ce que j'avais écrit ici. Regarde voir si ça... Ah oui, non, c'est parce qu'il a écrit en blanc ce qui était censé être noir. Bon, c'est voilà. Vive le rétroviseur au projecteur. Bon, bref. Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. C'est la confession de foi des premiers chrétiens. Et vous voyez que c'est la confession de foi aussi de cet eunuque qui a bel et bien compris. En passant, ça veut dire qu'ils ont parlé assez lentement, longuement. Et tout à la fin, ils demandent le baptême. Alors, on ne va pas parler du baptême aujourd'hui, parce qu'il y aura des baptêmes dimanche prochain. Merci de prier pour le culte de dimanche prochain. On se réjouit beaucoup des baptêmes qu'on pourra vivre. Et là, on expliquera plus de choses sur le baptême. Mais je me suis posé la question, quand je discute de Dieu avec mes amis, je leur dis quoi? Qu'est-ce que je leur explique? Est-ce que je leur explique suffisamment pour qu'ils puissent confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Pas juste que les chrétiens sont sympas, par exemple, et qu'il faudrait venir dans cette église, j'entends, ouais, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et bien plus que cela, que je dois m'attacher à lui, parce qu'il est venu pour laver mes péchés. C'est bien ça le sens du baptême. Est-ce que... Je raconte jusque-là. Voilà, on va s'arrêter ici. Vous voyez que c'est un texte plein de surprises, où les choses ne se passent pas tellement comme on s'y attendrait. Une manière de nous émerveiller que Dieu fait souvent les choses de manière un peu inattendue, et qu'il faut quelque part pas qu'on s'en étonne, il faut juste qu'on entre dedans, et qu'on s'en réjouisse. Un texte qui nous encourage sans doute à prier pour rencontrer ces gens qui cherchent Dieu. Et un texte qui nous rappelle que ce qui compte le plus, c'est qu'on s'attache à Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Qu'on s'attache à Jésus-Christ. Finalement, c'est ça qui compte. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je suis toujours réjoui de voir la diversité des gens que tu appelles aux quatre coins du monde. Des gens de toutes sortes, de tout âge, de toutes conditions sociales, de toute couleur de peau. Et tu les accueilles dans ton peuple parce qu'ils s'attachent à toi. Seigneur Jésus, tu vois comme souvent nos habitudes prennent un peu trop de place. On sait bien que c'est bien nos habitudes et on les aime bien. Mais Seigneur, aide-nous à placer en tout premier notre attachement à toi. Et à savoir communiquer autour de nous que c'est finalement ça qui compte le plus pour nous. Notre attachement à toi. Et que tout le reste vient après. Seigneur Jésus, je te dis merci pour notre Église. Nous, on a cette chance d'être entourés. On sait bien qu'il y a bien des amis, des frères dans la foi, qui, comme cet eunuque éthiopien, se retrouvent tout seuls dans un pays. Et je te prie de les garder et de les guider. Mais je te prie aussi, Seigneur, que tu fortifies nos liens entre nous, pour qu'on puisse profiter de ce que tu as construit, de cette chance que nous avons d'être ensemble. Amen.